Denise Suarez, la veuve noire du Brésil. La juge d'instruction se rend elle-même au Brésil pour retracer l'emploi du temps du couple et les derniers instants où Sébastien a été vu vivant, en interrogeant des témoins sur place. La police brésilienne se montre très coopérative. Policiers français et policiers brésiliens parcourent les rues de la ville de Salvador avec des photos de Sébastien Brun. Si le fleuriste s'y est établi depuis près d'un an, alors il aurait dû être repéré par un habitant ou un commerçant. Dans cette région, très peu touristique, les Occidentaux ne passent pas inaperçus. Après quelques jours d'investigation qui se sont soldés par un échec, la juge d'instruction et ses enquêteurs font le déplacement jusqu'au village de Cabuçu. Ils rencontrent Maria Célia, la nourrice engagée par Denise pour s'occuper de leur petit garçon. Elle évoque un couple heureux qui ne se dispute jamais. D'après cette enquête réalisée sur place, durant les 3 semaines de leur séjour, Denise et Sébastien vont d'hôtel en hôtel. Les enquêteurs trouvent la trace de ces établissements et investiguent dans le dernier établissement fréquenté par le couple. Il s'avère que Denise, la veille du départ, y a séjourné seule en compagnie de son petit garçon. Les habitants du village de pêcheurs sont également interrogés. Ils se souviennent très bien de ce couple atypique et affirment qu'ils n'avaient pris qu'une seule voiture de location et non deux. Les enquêteurs rencontrent également une amie de Denise, chez qui le couple se serait rendu le 18 août, la veille du départ. Elle dit avoir trouvé Denise très nerveuse. Elle lui mentionne qu'elle va à la pharmacie et demande de faire en sorte que Sébastien ne la suive pas. La jeune femme a retrouvé Sébastien dans un état très étrange. Il semblait rigide, son regard fixe, les yeux grands ouverts, presque terrifié. Il n'a pas prononcé un seul mot de la soirée. Lorsque Denise est revenue de la pharmacie, elle a remarqué qu'elle tenait un sac transparent contenant une petite fiole. Ce témoignage confirme les soupçons des enquêteurs. Sébastien aurait pu être drogué. La juge d'instruction émet l'hypothèse qu'il aurait été tué dans la nuit du 18 au 19 août. De retour en France, sur ses découvertes, la juge d'instruction convoque Denise Suarez dans son bureau. Elle se présente accompagnée de son avocate, Maître Joël Vernet. La juge lui fait part de son intention de la mettre en examen pour meurtre. Son avocate bondit. Sa cliente est innocente, elle ne peut pas être accusée du meurtre de son mari. Aucun élément ne le prouve, selon elle. Après plusieurs demandes de remise en liberté, Denise Suarez est parvenue une première fois à tromper la justice française. En septembre 2007, elle quitte sa prison pour femme après un an de détention. Les parents de Sébastien craignent que la jeune femme s'en sorte. Si elle en profite pour retourner au Brésil, il serait en effet impossible de la faire extrader en France. 3 mois avant sa remise en liberté, la famille Brun avait déjà contre-attaqué. Contre l'avis de leur avocat et des enquêteurs, ils écrivent une lettre au consul de France du Brésil en proposant une récompense de 20 000 euros pour toute personne qui pourrait leur apporter de nouvelles réponses ou des éléments de preuve dans cette enquête criminelle sur les circonstances de la mort de leur fils. La stratégie s'avère payante. Nous sommes le 25 mai 2008. Un témoin anonyme prend contact avec des enquêteurs brésiliens. Il leur raconte que le frère de Denise, Messias, ainsi que l'un de ses demi-frères, Almir, ont aidé cette dernière à se débarrasser d'un Français, amené dans un état second. Messias l'aurait ensuite achevé à coups de pelle avant de l'enterrer dans une carrière de sable. Lorsque les policiers brésiliens ont arrêté Messias, il leur a raconté une autre histoire. Lui affirme que sa sœur Denise lui avait demandé d'enterrer son compagnon. Il a nié l'avoir achevé à coups de pelle, affirmant qu'il était déjà mort. Selon lui, le corps était déjà raide et présentait les signes d'un empoisonnement au cyanure. Les policiers français arrivent aussitôt au Brésil et rencontrent ce fameux témoin anonyme que l'on appellera Claudio. Claudio les amène à la carrière où se sont déroulés les derniers instants de Sébastien. L'endroit où il est enterré est marqué par une dalle de pierre. Le corps est enfin découvert par les policiers le 7 juin 2008, près de 4 ans après sa disparition. Le cadavre de Sébastien est retrouvé en très mauvais état, mais suffisamment bien conservé pour permettre une expertise médico-légale au Brésil. Le médecin légiste constate plusieurs fractures au visage et un trou de 2 cm à l'arrière du crâne de Sébastien. Les policiers recueillent un maximum de détails auprès de Claudio. Selon lui, c'est Denise qui a poussé son frère à le faire, affirmant que Sébastien voulait la tuer. Elle aurait demandé son aide pour s'en débarrasser. Messias a agi ainsi pour la protéger. Claudio confirme que c'est bien Denise qui lui a administré un produit, alors qu'il partageait un verre dans un bar du port. Pour l'heure, on ignore la substance exacte du produit. Le corps doit être autopsié en France pour pouvoir le confirmer. Une deuxième expertise qui ne manquera pas de faire débat. Claudio dit que Denise a également participé au camouflage du corps. Elle a éclairé ses frères avec les phares de la voiture pendant qu'ils creusaient le trou. Sébastien était simplement groggy. Messias aurait été obligé de lui asséner un coup violent de pelle à la tête pour le neutraliser avant de l'enterrer. Cet élément colle parfaitement avec les constatations du légiste. Les policiers brésiliens ont une autre version, celle qui confirme la mort de Sébastien par empoisonnement. Le coup de pelle aurait été seulement accidentel. Les enquêteurs français demeurent sur la réserve. Messias pourrait avoir inventé toute cette histoire pour se disculper de ses responsabilités. En revanche, ses aveux leur permettent d'apprendre que Denise Suarez a prémédité son crime. 3 jours auparavant, elle lui avait parlé d'un travail qu'elle lui confierait plus tard pour la somme de 2000 euros, sans en préciser la nature. Une deuxième expertise révèle que les fractures auraient été causées par l'instabilité du terrain. Les os ont été gravement endommagés. De plus, il est possible que le coup à la tête ait été porté après la mort. L'expertise toxicologique révèle une concentration massive de cyanure, suggérant un empoisonnement de Sébastien de son vivant ou une contamination post-mortem par le sol dans lequel il était enterré. Cette deuxième hypothèse est contredite par une expertise du sol ne contenant aucune trace de cyanure. Pour les enquêteurs, la conclusion est évidente. Sébastien a été empoisonné par sa femme. Le cyanure est courant et facilement accessible au Brésil. Il est naturellement présent dans le manioc amer. Cette racine doit être correctement préparée pour être consommée. Une particularité que devait certainement connaître Denise. À seulement 200 mètres de la maison de la famille de Suarez, se trouve un vaste champ de manioc. Malgré les preuves accablantes, Denise continue de nier son implication dans le meurtre de son compagnon. Lors d'un ultime voyage de la juge d'instruction pour rendre visite à Messias, ce dernier revient sur ses aveux devant les policiers français. Il affirme avoir tout avoué sous la contrainte. Messias est jugé au Brésil pour son implication dans l'affaire. Almir, le demi-frère, a choisi la fuite. En attendant une date de procès, la juge d'instruction demande une expertise psychologique. La cruauté d'un tel scénario paraît impensable pour une femme qui avait tout pour réussir. Le rapport de l'expert permet de mieux comprendre l'enfance de Denise et sa personnalité. Denise est la seule fille d'une famille de pêcheurs pauvres qui comptait 5 enfants. Son père est un homme à femme qui aime boire et multiplie les conquêtes. La mère de Denise s'est toujours cachée la véritable nature de son mari. Elle ment volontairement à sa fille dès qu'elle le peut. Denise est confiée à une famille riche dès l'âge de 9 ans. Cette dernière a passé un marché avec les Suarez. En échange de divers travaux ménagers, la fillette pourra suivre une scolarité normale. Une nouvelle vie, lourde de conséquences. Denise souffre très tôt d'un sentiment d'abandon, qui va la poursuivre tout au long de sa vie. Elle aspire également à une certaine ascension sociale. Elle a développé une forme de jalousie à l'encontre de la fille de sa famille d'accueil. À 20 ans, Denise suit un Français à Grenoble, l'épouse avec l'espoir d'une vie meilleure. Son rêve est de faire sa vie en Europe pour avoir de l'argent et aider sa famille. Lorsqu'elle divorce, c'est un coup très dur. L'attitude volage, selon elle, de Sébastien, en qui elle fondait de grands espoirs, aurait pu expliquer son geste criminel. Les experts déclarent que Denise est incapable de planifier quoi que ce soit, y compris un meurtre. Un premier procès a lieu à la cour d'assises de l'Isère, le 30 janvier 2012. Le procès est rapidement interrompu en raison de la défense agressive de l'accusé, qui a engagé pas moins de 4 avocats. Maître Bernard Ripper accuse la partialité du président de la cour et interrompt à plusieurs reprises la séance, ce qui entraîne des retards accumulés. 2 jours plus tard, le président décide de renvoyer le procès. Les parents craignent que Denise ne soit remise en liberté avant le prochain procès, mais elle est finalement maintenue en détention. Nous sommes le 2 février et tout est reporté. Le nouveau procès de Denise s'ouvre le 15 octobre 2012. Les parents de Sébastien sont représentés par Maître Alice Nallet. Elle décrit Denise comme une femme envoûtante, capable de manipuler les gens et de les mettre sous son emprise. La famille Brun n'a pu retrouver sa clairvoyance qu'une fois éloignée de Denise. Durant tout le procès, Denise a persisté à nier les accusations portées contre elle. Elle affirme qu'elle n'était pas au courant des agissements de son frère et que c'est lui qui a avoué avoir commis le meurtre. Cependant, personne ne la croit. Le 16 octobre 2012, lors de sa défense, L'avocate de la Brésilienne insiste sur le fait qu'elle n'était pas présente sur les lieux du crime. Elle ne peut donc pas être accusée d'homicide volontaire. Maître Vernet continue à affirmer qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments pour la déclarer coupable. De plus, la thèse de l'empoisonnement est remise en question par l'expertise du médecin légiste brésilien. L'expert indique que le cyanure a pénétré dans les eaux depuis le sol en raison de la proximité d'un champ de manioc près du lieu où le corps a été enterré. Le mobile de Denise est également mis en doute par maître Bertrand Sayen, son second avocat, affirmant qu'elle n'avait aucun intérêt à ce que Sébastien disparaisse. Elle était mariée à un bourgeois grenoblois et le magasin de fleurs rapportait de l'argent. De plus, si une séparation avait eu lieu, Sébastien aurait continué à subvenir aux besoins de ses enfants. La défense plaide l'acquittement en raison du doute. Elle met en cause le frère de l'accusé. Ce dernier, connu pour sa consommation de drogue et ses troubles psychologiques, aurait été en capacité de commettre un meurtre d'une telle barbarie. Denise Suarez aurait peut-être pu s'en sortir avec une peine peu importante, si elle n'avait pas essayé de manipuler la cour et ne s'était pas montrée aussi autoritaire. Le 31 octobre 2012, Denise Suarez est condamnée pour l'assassinat de son compagnon à 17 ans de réclusion criminelle, au-delà des réquisitions de l'avocat général qui avait demandé une peine de 15 ans. Ses mensonges ne l'auront pas sauvée. Après avoir hésité, Denise Suarez ne fera finalement pas appel. Elle est emprisonnée à la prison pour femmes de Lyon-Corbas. Denise a sûrement eu peur de prendre une peine plus lourde lors d'un procès en appel. Souvent, en effet, quand la culpabilité est avérée, les cours d'assises d'appel alourdissent les verdicts de première instance. D'autre part, au moment du procès, Denise Suarez a déjà purgé plus de 5 ans et demi de détention. Selon son avocat, dès 2015, à la moitié de sa peine, Denise Suarez sera libérable en conditionnel. Comme Denise Suarez a 2 enfants en bas âge, son dossier sera alors recevable et la condamnée devrait être libérée. Aujourd'hui, Denise Suarez est libre.